8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque semaine et aujourd'hui, émission spéciale révision d'examen. Où que vous soyez dans le monde, quel que soit votre niveau d'études, la saison des examens approche forcément, inexorablement. Alors comment mettre toutes les chances de son côté? Quels sont les mécanismes aussi de la mémoire, de l'attention? Comment gérer l'anxiété, le stress, rester zen, y compris pendant les épreuves? Nos invités partageront les conseils pour vous aider à aborder les examens en toute sérénité. C'est le moment, bien sûr, de poser vos questions. Je vous présente nos invités. Anne de Pomereux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes formatrice en méthodologie d'apprentissage, spécialiste de la mémoire et de l'attention. Et d'ailleurs, vous avez publié « À la reconquête de l'attention », c'est votre dernier ouvrage, aux éditions Jean-Claude Lattès. Mémoire, attention, ça va souvent ensemble. Je vous lis le message de Mamadou, qui est à Nouakchott, en Mauritanie, et qui partage une technique de révision quand il était étudiant. J'épinglais mes fiches partout dans ma chambre, sur la porte, sur les battants de l'armoire et la planche au-dessus de mon lit. Voilà, c'est vraiment l'état d'esprit 100% révision.
Oui, alors après, il faut que les fiches rentrent dans la tête. Il ne suffit pas de les épingler. Il faudrait les épingler à l'intérieur. C'est ça qui est plus difficile.
Ouais, mais le geste d'épingler, ça peut aussi indiquer qu'on épingle, qu'on encode les informations à l'intérieur de son cerveau.
Parfois, pas sûr.
Pas sûr. Bon.
Non, pas sûr.
Beaucoup de conseils, en tout cas, vous allez nous donner. Et bien sûr, nous serons aussi en ligne avec Abdel Halim Boudouka. Pour l'instant, nous avons quelques difficultés à le joindre. S'il nous entend, surtout qu'il reste disponible sur son téléphone. Il est chercheur à l'Université de Nantes, au laboratoire de psychologie des Pays de la Loire, et il a notamment étudié le niveau chez des étudiants qui préparent le concours de pharmacie, le niveau de stress et d'anxiété. Vous allez répondre donc, Monsieur Boudouka, à tous les étudiants qui perdent leurs moyens, surtout pendant les examens. Et quant à vous, les voisins et les voisines, dites-nous dans quel état d'esprit vous êtes à quelques semaines des examens. Répondez aussi à notre sondage sur Instagram, sur le compte 8 milliards. Que faites-vous pour bien préparer un examen? 4 réponses possible entre le très organisé et le total last minute. Souvent facteur de stress quand même, hein, quand on s'y prend très 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 à la dernière minute. Allez, soyez honnête en tout cas pour répondre en toute franchise. Et surtout, contactez-nous pour poser vos questions en direct dans l'émission sur RFI. 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins et de voisines.
Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin.
Et tout de suite, comme chaque semaine, l'école autour du monde, l'actualité de l'éducation, avec aujourd'hui Sarah Teto, correspondante de RFI à Madagascar. Bonjour Sarah.
Bonjour Emmanuel.
À Madagascar, une association d'étudiants et de jeunes professionnels se bat pour déconstruire les stéréotypes de genre concernant les métiers.
Oui, exactement. La section jeune de la Fédération pour la promotion féminine et enfantine intervient dans les écoles primaires, essentiellement en milieu rural. Son but, eh bien, c'est de faire évoluer les mentalités, d'expliquer aux enfants qu'ils peuvent exercer le métier de leur choix en s'émancipant des interdictions et des normes véhiculées depuis des générations. J'ai pu assister à leur intervention la semaine dernière dans l'école catholique d'Ambouimangarouve, une commune rurale en périphérie de la capitale. Les enfants qui participent à l'atelier que vous allez entendre ont entre 6 et 9 ans.
Pensez-vous qu'il existe des métiers que pour les femmes?
Oui.
Quoi par exemple?
Femme de ménage, vendeuse de beignets.
Et un métier que pour les hommes?
Policier.
Les enfants, il faut que vous sachiez qu'il n'y a aucun métier que les hommes ou les femmes ne puissent pas exercer. Par exemple, beaucoup d'entre vous m'ont dit vouloir être pilote, policier, médecin. Tous ces métiers n'exigent pas que tu sois un garçon, d'accord? Ce qu'il faut, c'est avoir la volonté et réunir les efforts nécessaires pour étudier ce métier-là, ok?
Sarah Teto, vous me disiez hors antenne que l'animatrice avait répété cela une bonne dizaine de fois aux enfants durant la matinée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métier spécifique réservé aux filles et aux garçons. Pourquoi elle rabâche ça?
Oui, effectivement, c'était un peu comme un mantra. Eh bien, pourquoi elle a répété ça plusieurs fois ? Eh bien, c'est parce que ces stéréotypes, on l'a vu, hein, sont déjà très ancrés dans la tête des enfants dès leur plus jeune âge, de par les discussions en famille déjà, mais aussi parce qu'à l'école, la leçon dédiée au métier présente les activités professionnelles de manière très genrée. J'ai pu consulter avec la directrice les manuels scolaires officiels. Dans la liste des métiers, on y retrouve le médecin, le mécanicien, l'éleveur, mais la couturière, la secrétaire, ou encore on peut y lire des explications comme celle-ci, la semence et le repiquage du riz sont des travaux de femmes. Donc l'association, vous l'avez compris, se bat contre ce formatage en offrant une autre vision de l'emploi, mais elle essaie aussi de pousser les enfants à se questionner sur leurs propres envies, et ça c'est ce que nous explique Yansou Rakoutouarvel, la secrétaire générale de cette fédération.
Aujourd'hui, on se rend compte que dans notre société, la plupart des jeunes malgaches, ils ne sont pas à l'écoute de ce qu'ils veulent faire, mais ils sont plutôt sous la pression sociale, sous la pression de la famille, comme quoi ils doivent impérativement avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Et la plupart finissent avec des métiers qu'ils ne veulent même pas faire.
Et Sarah Teto, comment les jeunes qui sillonnent les écoles à Antananarivo parviennent à changer les mentalités chez les écoliers et les familles ?
Eh bien, la quinzaine de jeunes qui se déplacent à chaque intervention dans les écoles rurales, hein, Emmanuel, plus que dans la capitale, c'est vraiment dans les écoles rurales et périurbaines, elle vient aussi présenter son métier ou ses études aux enfants. La semaine passée, il y avait ainsi une anthropologue, un écologiste, une journaliste, un entrepreneur, un maître d'œuvre, autant de métiers finalement avec lesquels les enfants de ces zones rurales ne sont pas forcément familiarisés. Une manière donc d'ouvrir leur horizon, de leur montrer qu'il existe d'autres perspectives, eh bien, que la reproduction du schéma familial et qu'il existe surtout des chemins pour y arriver. Un combat fort louable donc, mais bien sûr, hein, on n'oubliera pas que la priorité à Madagascar reste l'accès à une éducation de qualité et à l'emploi des jeunes, genrés ou pas. Deux priorités loin d'être atteintes aujourd'hui sur l'île. Le taux de fréquentation du primaire est de 76% à Madagascar et 4 enfants sur 10 abandonnent toujours l'école avant la dernière année du primaire.
Merci Sarah Teto, direct d'Antananarivo à Madagascar. À suivre, émission spéciale révision d'examen. Des conseils, des réponses à toutes vos questions pour cette période où il faut être bien organisé, s'y prendre à l'avance si possible et avec un planning. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Anne de Pomereux, Abdel Halim Boudouka, ça y est, on vous a retrouvé, Monsieur Boudouka, bonjour à vous.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être en direct. Merci d'être en direct avec nous. Je vous propose tous les deux déjà d'écouter la question d'un lycéen à Libreville au Gabon.
Bonjour à tous et à toutes, auditeurs, auditrices de Radio France Internationale. Je suis Lucien Maël depuis le Gabon à Libreville, en classe de terminale A2 au collège et lycée Notre-Dame de Kouabène et j'ai 3 questions. La première, comment établir un plan de révision pour le bac de juin? La deuxième, dans quel état d'esprit faut-il se mettre pour ne pas stresser au moment de l'épreuve? La troisième, comment faire pour mieux retenir des leçons lorsque l'on sait que l'on se retrouve souvent avec plus d'une dizaine de matières? Merci.
Bon bah, Lucien, il a posé toutes les questions qu'on va poser dans l'émission, en fait. Alors, peut-être déjà sur le planning de révision pour le bac de juin. C'est vrai que ça fait peur hein, à des jeunes qui ont 17, 18 ans. Anne de Pomereux, comment on établit un planning? On n'a pas l'habitude, c'est pas comme quand on est étudiant à l'université, on a plusieurs examens derrière soi.
Oui. Alors, le planning, il est assez clé parce que c'est beaucoup mieux de savoir ce qu'on a à faire pour savoir quand on va le faire, en fait. Donc, on commence par se poser la question, qu'est-ce que j'ai à réviser? Et ça, c'est assez basique, en fait. On prend par matière, par chapitre, qu'est-ce que j'ai besoin de réviser plus? C'est-à-dire qu'on peut se poser la question sur le timing, c'est ce que je connais mieux, j'ai besoin de le réviser moins.
Donc on évalue le nombre d'heures,
oui,
par exemple.
Oui, le temps. C'est idéal.
Et on affiche son planning sur les murs ?
Idéalement, alors tout dépend du nombre de jours qu'on a, dont on dispose pour réviser. Quand est-ce qu'ils sont libérés de classe pour les révisions ? Ou est-ce que c'est au dernier moment ou pas ?
En pratique, on commence déjà à réviser quand même avant d'être libéré, petit peu.
Et on organise un planning, un rétro-planning en fait. On sait que la date du bac, c'est le 15 juin, 16 juin, j'en sais rien. Et en fonction de cette date, on fait un rétro-planning par chapitre, en se disant...
Donc, rétro-planning, c'est-à-dire qu'on part de l'arrivée, du dernier jour, et on remonte dans le temps.
Jusqu'à aujourd'hui.
Voilà.
Et idéalement, en fait, c'est d'abord de se mettre sur une espèce de liste de tous les chapitres que j'ai à réviser, en essayant de les quantifier en temps, ce qui n'est pas si facile que ça. Si on a pris l'habitude au fil de l'année de le faire, c'est beaucoup plus simple. Si on n'a jamais fait ça, ça risque d'être un peu compliqué.
Donc, dernière semaine, il faut que j'arrive à tel chapitre, l'avant-dernière semaine à tel chapitre, avant-avant-dernière semaine, etc. etc.
Faut le faire dans l'autre sens.
Chaque matière, bien sûr.
Faut le faire dans les deux sens.
Dans quel état d'esprit il faut se mettre pour ne pas stresser au moment de l'épreuve, Abdelalim Boudouka ?
Alors ça, c'est une question extrêmement importante, parce qu'on a pas mal d'études qui montrent qu'à un niveau optimal de stress, on a un niveau de performance optimale. L'idée, en fait, je pense, c'est bien de prendre en compte que le stress, c'est pas un ennemi, d'une part, et que l'idée va être de le gérer au mieux, c'est-à-dire pas suffisamment de stress, c'est probablement pas assez de motivation, et trop de stress, c'est pas suffisamment de concentration et de possibilité de gérer en fait la performance. Donc l'idée, et je rejoins ce que disait la collègue juste avant, à partir du moment où on a organiser un planning, un rétro-planning de révision, on peut commencer à envisager des activités qui sont ressourçantes et qui vont permettre d'équilibrer l'énergie dont on aura besoin lors de l'épreuve. Mais peut-être un premier conseil, c'est de ne pas partir de cette idée que lors de l'épreuve, on doit avoir zéro stress. Mais plutôt... quel est le niveau de stress que j'accepte et que je peux gérer ?
Mais on a pas mal de nos voisins qui confondent un petit peu stress, anxiété. Là, vous semblez beaucoup positiver le stress. Est-ce qu'il va provoquer aussi la décharge d'adrénaline le jour de l'examen et qui fait qu'on va être extrêmement concentré en principe ? Mais il y a cette anxiété latente. Quelle est exactement la différence entre le stress et l'anxiété ? En quelques mots.
Alors, je vais essayer d'être clair. L'anxiété, c'est l'anticipation d'une menace. Sous-entendu, j'anticipe un danger, quelque chose qui est grave et qui peut mettre en péril mon intégrité. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui a une valeur forte, par exemple.
Donc, j'ai peur de rater mon bac, j'anticipe l'échec possible du baccalauréat, donc je fais un planning de révision.
Voilà. Et parce que je me dis, si je rate mon baccalauréat, ma vie est terminée. Bon. Et là, on est dans de l'anxiété. Parce que la réalité, c'est que si je rate mon baccalauréat, ma vie, elle va continuer. Ceci dit, il est possible qu'il y ait des conséquences. Le stress, en fait, c'est plutôt la mise en difficulté de mon bien-être. Sous-entendu, j'étais tranquille et puis tel événement vient rompre ma tranquillité, mon bien-être.
Donc en fait,
c'est pas la même nature et c'est pas le même registre.
Le stress est une tension.
Il y a quelque chose de grave.
C'est ça. Le stress est une tension. L'anxiété est une dramatisation finalement. On va bien sûr vous donner la parole, les voisins et les voisines. Est-ce qu'on a le temps de... Non, on va peut-être prendre Mahamat un petit peu plus tard. Il a une question aussi à nous poser en ce qui concerne la planification. Vous allez rester avec nous. On va évoquer bien sûr l'épineuse question des écrans aussi, comment résister à la tentation du portable pour bien réviser. On parlera aussi des méthodes de mémorisation, puisque la troisième question, mais alors là, il faut vraiment passer du temps. La question de Lucien, on va y répondre, Lucien, pas d'inquiétude, pas de stress. Comment faire pour mieux retenir les leçons quand on a plus de 10 matières ? C'est vrai que quand on est lycéen, on se dit, c'est une somme énorme. Ce qui est un peu différent d'ailleurs à l'université, où souvent, les examens sont par paquet et on n'a pas 10 matières en quelques semaines. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41 et on vous donne la parole juste après le Sénégal et la sélection de la playlist RFI, Massamba.
Melo linga don demali au sayon xamo li nga don ya ko sañ melal lu la neex
Waralou la ner, demal fou la ner, ya ko sañ. Ferago, nga bëgg sa xilaaf, amago, nga wedi kilifa. Naka ngay doxé, naka ngay waxé, naka ngay défé, ya ko sañ. Fomanane bayire wande ya ko sañ gone gundawnga hamago dara jang warna la ya ko sañ lima gisade maneyemna haleile de maneyemna
De voisins, nous sommes en direct sur RFI et vous nous appelez pour poser toutes vos questions, pour bien réviser vos examens. 33 7 64 45 51 41. On accueille Marilyn qui nous appelle de Yaoundé. Bonjour Marilyn.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 18 ans.
Oui.
Et vous êtes en terminale.
Oui, c'est ça.
Donc le bac, c'est quand ? Marilyn, c'est au mois de mai.
Oui, ça vient bien.
Donc oui, il vous reste combien de semaines? Vous avez déjà calculé?
Un peu plus de 6 semaines.
Un peu plus de 6 semaines, d'accord. Bon, je vois que Marilyn a bien le planning dans la tête. Alors, quelle est votre question? Racontez-nous, Marilyn, vos inquiétudes. Vous êtes en direct, hein, Marilyn, allez-y.
J'ai des problèmes toujours avec la mathématique. C'est une matière que je n'affectionne pas beaucoup, mais j'ai quand même de bons résultats. Et j'aimerais savoir comment faire pour bien réviser. Pour d'abord me mettre à mes révisions de maths et avoir la bonne méthode pour bien réviser.
D'accord. Alors, la ligne téléphonique est très mauvaise. On est désolé, Marilyn, hein, mais on ne vous entend pas très, très bien. Mais moi, j'ai bien votre question sur l'écran. Vous avez dit que vous aviez de bons résultats en maths, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même, ça vous inquiète et vous ne savez pas comment vous y prendre pour réviser les mathématiques. Vous préférez d'autres matières scientifiques comme la bio, la chimie. Est-ce qu'il y a une méthode pour bien réviser les épreuves de mathématiques, Anne de Pomereux?
Quand ce sont des matières à exercice, et les mathématiques, à mon avis, font partie des matières à exercice, la bonne manière de réviser, c'est de s'exercer. Donc le mieux, c'est de faire des annales ou de refaire des exercices sur lesquels on a un peu buté pour pouvoir trouver, enfin, débloquer là où il y a des blocages. Donc c'est en s'exerçant qu'on devient bon en maths. Donc plus on fait d'exo, plus c'est facile.
Ouais, et plus on fait d'exercices, plus on utilise les fameuses formules mathématiques, et donc on les mémorise mieux.
Oui, et puis c'est pas qu'une question de formule, en fait, dans la manière dont les exercices sont posés, sur un sujet, on peut l'aborder de 4 ou 5 manières différentes. Donc plus on voit dans le manuel les manières dont les questions sont posées, plus on s'exerce, plus ce sera facile. Et on peut faire des annales. Si vous avez bien révisé toute l'année, que vous avez été régulière, là, c'est le moment de faire des annales.
Ouais, donc les annales, donc, c'est-à-dire les énoncés
Des années d'avant.
Des examens de mathématiques, voilà. Des épreuves de mathématiques du bac des années précédentes.
Voilà. Aussi, il faut faire attention de ne pas donner plus de temps à une matière qu'une autre. Donc, d'équilibrer un peu les agendas de révision. Et moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un planning par journée relativement fixe, en fait. Je commence à 8h, de 8 à 10, je fais des maths, de 10h, ensuite, je fais une bonne pause, ensuite, je fais 1 heure de chimie ou de physique, ensuite, vous voyez, et on a comme ça, on organise à l'avance un planning de révision où on laisse de la place aux pauses, parce qu'il faut aussi à pas arriver épuisé le jour de l'examen. Et c'est tous les jours à peu près le même planning, en fait. Et après, il n'y a plus qu'à savoir, pendant les heures consacrées aux maths, qu'est-ce que je mets dedans.
Et s'entraîner à résoudre les exercices, évidemment, dans un temps donné.
Oui, exactement. En fait, il faut se mettre la pression un peu comme quand on est en examen. Parce que si on met 4 heures pour résoudre un problème qui demande qu'une heure, ça ne va pas.
Voilà, merci Marilyn pour votre question. Vous continuez à nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Floribert est en ligne avec nous. Bonjour Floribert. Ah, on a Mahamat. Mahamat qui est à Garoua, dans le nord du Cameroun. Bonjour Mahamat.
Bonjour Emmanuel.
Soyez le bienvenu Mahamat.
Je m'appelle Mamatom.
Oui.
J'appelle depuis Garoua au Cameroun.
Mm-hmm.
Et j'ai 38 ans.
Mm-hmm.
Je suis une formation en auxiliaire de vie au centre Martin Pêcheur de Garoua depuis janvier. Et le stage a déjà commencé. Ça dure 3 mois.
Oui.
J'aimerais savoir comment planifier mon rapport de stage à la soutenance et les révisions des cours pour l'examen final qui se tiendra en septembre.
C'est ça. Ah oui, vous avez un examen final en septembre, donc il y a des connaissances à mémoriser pour devenir, pour valider votre formation d'auxiliaire de vie. Alors, comment on peut s'organiser, Anne de Pomereux, pour planifier à la fois l'écriture du rapport de stage et les révisions? Ce qui est bien, c'est que Mahamat nous appelle très à l'avance concernant l'examen de septembre.
Est-ce que vous travaillez en plus ou vous faites que réviser, là?
Oui, je travaille. Je suis au marché, je travaille.
Ah oui, donc c'est ça. Donc, de combien de temps disposez-vous par jour pour accorder aux études?
Pas assez de temps, mais comme c'est une année, ça va durer, la formation dure une année.
Oui.
J'ai sacrifié tout pour essayer de voir. Comme le marché, ça ne va pas bien ici, là.
Oui. C'est-à-dire que vous pouvez écrire votre rapport et réviser combien de temps chaque jour? 1 heure? 30 minutes?
Oui, environ 1 heure.
Ah oui. Donc, vous n'avez que 1 heure disponible par jour consacrée à la fois aux révisions et aux mémoires.
Oui, presque ça.
Et le week-end,
jusqu'au mois de septembre.
Oui, j'ai bien compris. Et le week-end, vous avez plus de temps ou pas?
J'ai plus de temps, le week-end.
D'accord.
On a samedi et dimanche.
D'accord. Alors, moi, je pense qu'il faut... L'écriture, c'est toujours des temps longs. Donc, pour écrire, il faut prévoir des plages longues, où on va consacrer une plage longue, donc au moins 2 heures, voire 3-4 heures.
Plutôt le week-end.
Donc le week-end. Et à mon avis, c'est prioriser le week-end pour l'écriture, parce que là, on a besoin de temps long, même si on écrit peu. Il ne faut pas chercher à écrire pendant 4 heures, mais à consacrer 4 heures pour écrire ce que vous allez écrire. Ça peut être 500 mots, 1000 mots, 2000 mots, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est du temps long parce que c'est de la réflexion et ça, c'est difficile. On ne peut pas le faire sur un temps court. Et moi, je mettrai les 1 heure par jour pour les révisions des examens parce que ça, on peut le faire sur des temps courts avec une matière par jour ou quelque chose comme ça. Enfin, à vous de voir l'organisation.
Merci à vous. Mahamat, on prend une question d'Ahmed qui est pour Abdel Halim Boudouka. Ahmed est en ligne avec nous. Bonjour Ahmed.
Oui, bonjour.
Vous avez 22 ans et vous êtes étudiant en licence 2, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je suis étudiant en université 2.
D'accord.
Il y a un des deux.
En droit, hein?
Ouais, en droit.
D'accord. Quelle est votre question, Ahmed?
Bon, j'avais une grande préoccupation. Mm-hmm. Et c'est bon. Depuis l'année passée,
oui,
je reçois des difficultés en termes d'apprentissage.
Oui.
Dès que j'ouvre le cahier, je n'arrive plus à apprendre normalement. Non. Je commence à somnoler.
Ah, oui.
Du coup, je dors souvent. Non.
Uh-huh.
J'ai un peu du mal à apprendre et j'ai aussi du mal à rythmer. Parfois, même quand j'apprends,
uh-huh,
je fais peut-être une heure d'apprentissage.
Oui.
Je mémorise peu, je ne sais pas pourquoi.
Uh-huh.
Et pourtant, avant, je n'avais pas ce problème. J'ai demandé conseil, on m'a dit de faire du sport, mais j'ai essayé le sport, mais ça n'a pas toujours donné. Mmh.
Quand vous dites avant, vous n'aviez pas ce problème, avant quoi vous avez eu des redoublements, Ahmed?
Si, actuellement, là, je reprends. Mais avant, je ne reprenais pas une seule. Bon, avant d'arriver au niveau 2, quoi.
Mmh. Est-ce que...
Vu qu'au niveau 1, c'était un peu passable, au niveau 2, l'année passée, c'est là où le problème a commencé.
Le problème a commencé quand vous avez commencé à échouer, finalement. Oh. Ahmed.
Oui,
le problème a commencé quand l'échec est arrivé, finalement.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Abdelali Moudouka, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Ahmed qui semble, dans sa voix, ouais, assez démotivé?
C'est ça. Je pense qu'il y a un autre phénomène. Alors, on a le stress, mais on n'a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on est exposé à des situations qui sont difficiles, et notamment de l'échec à l'université, je dirais au niveau scolaire, ça peut entraîner un sentiment d'inefficacité, de démotivation. Ça peut également donner l'impression qu'on n'est pas capable. Et je pense qu'on est plutôt dans ce registre-là. On n'est plus dans le stress, mais plutôt dans le registre de « je me sens plus capable et je ne crois plus en ma possibilité de réussir
». Oui.
On pourrait parler, par exemple, d'une diminution du sentiment d'efficacité personnelle.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Ahmed pour qu'il nous dise « je n'avais pas ce problème-là avant ». Donc, comment retrouver l'état d'esprit positif qu'il avait auparavant?
Alors, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, la première, ça pourrait être de commencer à refaire des tâches qu'il réussit ou qu'il réussissait et pour lesquelles il n'y a pas un niveau d'énergie trop important qui est demandé. Parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a deux choses. À la fois, il y a une perte d'énergie chez Ahmed, et puis il y a également un sentiment de démotivation. Donc les deux ensemble, ça crée un mix où dès qu'il va ouvrir un livre, un cahier, il aura l'impression de toute façon qu'il n'y a rien qui rentre dans son cerveau et qu'il ne va pas réussir. Donc l'idée, c'est de démarrer avec des activités qui sont facilement atteignables, pour lesquelles il y a une récompense directe. Hein. Je comprends, ça se passe bien, pour redonner la motivation. Donc l'idée, c'est de redonner la motivation. On lui a proposé quelque chose qui est pertinent, hein, par exemple, de refaire une activité physique, sauf que je pense qu'en fait, la démotivation est plus intellectuelle que physique, et donc c'est plus à ce niveau-là qu'il y a un moyen d'accès et puis de modification. Donc ici, de commencer à refaire des choses qui sont plus faciles, plus simples, et pour lesquelles, en fait, il va retrouver à la fois de la motivation et un sentiment de contrôle et de réussite.
Bonne chance, Ahmed, en tout cas, pour les examens. J'espère que vous avez bien entendu les conseils d'Abdelali Moudouka.
Oui, j'ai bien suivi, mais je ne sais pas, est-ce que ça n'a pas aussi un autre impact par rapport au sommeil, quoi. Dès que j'ouvre le cahier pour apprendre le sommeil, il commence à somnoler, je comprends.
Oui. Trop bien. Mais oui, c'est automatique, parce que c'est ce qu'on appelle un conditionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'énergie est tellement basse que le fait simplement d'ouvrir un cahier, ça renvoie au cerveau « je ne vais pas réussir, alors à quoi ça sert que j'essaye ?»
Alors autant s'endormir.
C'est qu'on change cette idée qui est renvoyée au cerveau. Au lieu d'activer le « si j'ouvre mon cahier, de toute façon, ça ne sert à rien, je ne vais pas réussir », l'idée, c'est de se dire « ouvrir le cahier, c'est un moyen de réussir, c'est un moyen de m'accomplir ». Donc en fait, l'idée, c'est de changer ce que le cerveau interprète quand aujourd'hui il ouvre le cahier. Et pour le faire, bah forcément, il faut lui donner de l'énergie. Et l'énergie, c'est on démarre par quelque chose qui est facile. Donc peut-être lire quelque chose qui est facile à faire, peut-être commencer par des exercices qui ne sont pas trop compliqués, même si je sais qu'en droit, c'est une discipline qui est extrêmement prenante. Mais il faut démarrer par quelque chose de simple.
Ahmed, merci pour votre question. Le temps passe extrêmement vite. Là, on n'est pas en épreuve, mais quand même. Je voudrais qu'Anne de Pomereux, vous nous expliquiez, parce que ça, c'est vraiment utile pour tous, vous qui êtes en train de vous organiser pour vos révisions d'examen, ceux qui ont du mal à se concentrer, ceux qui ont du mal à mémoriser. Comment fonctionne exactement dans le cerveau la mémorisation, Anne de Pomereux ?
Alors, c'est un vaste sujet, mais il y a des points... Il y a vraiment trois points qui sont
trois étapes.
Oui, il y a l'encodage, le stockage et la récupération. Ce sont des mots de scientifiques, hein, ce ne sont pas des mots de méthodologie.
Alors, l'encodage, qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est comment je fais entrer quelque chose qui est à l'extérieur de moi, une connaissance, et que je vais la transformer pour qu'elle s'imprime en moi, en fait. Donc, qui dit encodage, c'est un mot un peu compliqué à comprendre, mais il y a toujours une sorte de transformation. Et en mémorisation, technique pure de mémorisation, l'encodage passe par des images mentales. C'est-à-dire que je ne vais pas apprendre directement la chose, mais un hameçon qui va me permettre de récupérer la connaissance. C'est une sorte d'hameçonnage, en fait. Hein. Et plus la connaissance est abstraite, plus le mot que je dois retenir est abstrait, plus il faut le transformer en quelque chose de concret, de précis, de visuel. Donc ça, c'est un principe un peu de base. Ensuite, il faut que je puisse le stocker. Et là, il y a une méthode qui est, dont on a hérité de la Grèce antique, donc il y a très longtemps, où ils s'étaient rendus compte qu'ils n'avaient pas en fait, la possibilité d'avoir des feuilles avec plein de connaissances
et prises de net. Cire.
Oui, en fait, la plupart des connaissances étaient retenues de mémoire parce qu'ils n'avaient pas... Enfin, c'était très cher, là. On pouvait écrire, mais c'était très cher. Donc, on écrivait des textes qui étaient vraiment finis. Mais pour réviser, c'était sur des tablettes de cire. Et donc, ils ont inventé un système où on utilise les espaces familiers pour déposer les images mentales des choses qu'on veut retenir. Voilà. Et donc, c'est de la géographie. En fait, c'est vraiment... Alors, exemple, je veux retenir, je ne sais pas moi, la chronologie de l'histoire. Parce qu'il y a aussi une autre chose, c'est qu'est-ce que je retiens ? Parce qu'il ne faut pas tout espérer, tout mettre dans son cerveau. Il faut commencer par faire une extrême vidange jusqu'à chercher, en fait, le minimum nécessaire à retenir. En histoire, il faut des dates, par exemple. Ça, c'est très important. Il faut des noms, des personnages, etc. Et puis en géographie, il faut comprendre les pays et tout ça. Mais voilà, commencer par passer beaucoup de temps à comprendre pour faire avec un système d'entonnoir. Ma connaissance, elle est immense. Ma bande passante, elle est étroite. Donc, je prends peu de choses. Et ça, j'apprends avec force. Et comme la mémoire est associative, c'est une autre caractéristique très intéressante, quelque chose que je connais déjà, la nouveauté s'accroche toute seule.
Et quel rapport avec les espaces ?
Alors, les espaces, c'est que je vais mettre dans l'espace pour retenir des choses très simples, en fait. Très peu de choses.
Exemple ?
Mais par exemple, une chronologie.
Oui, mais on la met où ?
Alors, par exemple, ici, dans ce studio, si je veux retenir la chronologie du 19e siècle, je vais installer Louis XVI à la place des personnes qui sont de l'autre côté de la vitre. Puis là, devant le téléviseur, après, je vais mettre la révolution.
Donc, en fait, on se projette dans la salle où on est, par rapport aux objets, et on va ranger les connaissances de son cerveau, qui s'encode dans son cerveau, sur des images concrètes de la pièce.
Oui, exactement. On va se servir des lieux qu'on n'a pas besoin d'apprendre, on les connaît.
Et la troisième étape, c'est...
La récupération.
La récupération. Une fois qu'on a stocké tout ça dans la pièce, bon, c'est une image mentale, le jour de l'examen, il faut récupérer les données pour les utiliser dans sa copie.
Et donc là, on repart du lieu, en fait, c'est ça l'astuce. On repart du lieu et on navigue dans le lieu point de passage après point de passage pour récupérer les images qui vont me redonner, en fait, les points de connaissance. Alors, ils sont très petits, mais c'est des points de repère, en fait, c'est des jalons. En quelque sorte, c'est des jalons. Donc, j'apprends des jalons, apprendre par cœur un cours, non, apprendre par cœur le plan du cours, oui. Et vous voyez, et c'est pas pareil.
Écoutez tout de suite le message de cette étudiante en République démocratique du Congo.
Bonjour, oui, milliards de voisins, c'est Claudia de Colessi. Je suis étudiante, nous sommes pendant la période des examens. Les examens ont débuté aujourd'hui. Aux humanités, souvent, on nous déconseille de ne pas revoir les notes le matin avant les examens, de peur d'être embrouillée. Mais toutefois, un dernier coup d'œil avant les examens peut sauver ou embrouiller. Je voulais un peu savoir ce que les experts vont dire là-dessus. Merci.
Alors, réponse, le jour J, donc, est-ce qu'il faut jeter un dernier coup d'œil à ces fiches avant l'examen ou au contraire, ça risque de nous embrouiller?
Tout dépend de ce qu'on a fait avant. En fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça peut rassurer, mais c'est de la mémoire à court terme. Donc, la mémoire à court terme, par définition, elle se vide vite. Si c'est juste avant l'examen, ça va. Mais si je m'embrouillerais si mes connaissances sont floues. Si mes connaissances sont pas floues, ça peut être nécessaire. Mais si mes connaissances sont floues, là, ça va pas déflouter, en fait.
Donc, parce que la mémoire fonctionne avec des couches, d'où l'intérêt de s'y prendre assez à l'avance pour réviser.
Oui, practice makes perfect. Mmh. La pratique
et
rend...
Et la question aussi derrière, c'est... j'ai envie de me rassurer,
oui.
Parce qu'en fin de compte, je me dis que peut-être j'aurai raté quelque chose ou parce que je ne suis pas... en sécurité avec mes acquis. Mmh. Je pense que quand on est sur le jour de l'examen, ces stratégies-là qui visent en fait à se rassurer, elles n'ont pas un effet sur la performance. Je pense que c'est ce qu'il faut se dire. Mmh. Ça augmente pas la performance, ça donne simplement le sentiment qu'on maîtrise ou qu'on maîtrise pas.
Voilà. Donc, donc pour Claudia, si ça la rassure, elle peut réviser elle peut relire ses fiches, jeter un petit coup d'œil le matin même.
C'est souvent d'ailleurs même pas de la révision, c'est jeter un coup d'œil.
Une question de Hassani. Ça passe très 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 vite. Hassani, qui est étudiant à Moroni aux Comores, nous dit parfois en classe, je comprends super bien, mais après, quand je révise, j'ai l'impression que j'oublie tout, comme si j'étais jamais allé en classe. Que faire si on étudie mais qu'on ne retient rien? Vous êtes très nombreux à poser ces questions.
Alors ça, c'est clé. C'est clé. En deux mots, ça va être compliqué, mais je vais essayer. Donc, c'est normal qu'en sortant du cours, on ait l'impression d'avoir compris, puisque c'est tout frais. Donc déjà, la bonne stratégie, c'est de revoir le cours, non pas juste avant l'examen, mais juste après le cours, le plus tôt possible après le cours. La première révision. Et la bonne stratégie, et celle-là, elle est vraiment importante, c'est la stratégie des questions. Il y a une méthode qui s'appelle Cornell. En fait, je n'apprends pas par les réponses, j'apprends par les questions que je me pose. Donc, il faut être capable de générer des questions comme si j'étais prof de ma propre connaissance, en fait. De s'interroger soi-même pour voir si on a compris. Et de générer des questions qu'on va coller sur le cours, dont les réponses sont dans le cours.
Et une question de... Est-ce qu'on a Floribert en ligne? Oui, il est en ligne avec nous, il a 20 ans, il est en sixième année il est en terminale littéraire à Kinshasa. Floribert, est-ce que vous êtes en ligne avec nous?
Oui, je suis là.
Oui, bonjour Floribert. Soyez le bienvenu. Alors, vous préparez donc l'examen d'État, le bac, l'équivalent du bac?
Évidemment, je prépare les bacs.
Oui.
Et je sais bien que cela est plus important pour moi. Les derniers, on se prépare en ce sens qu'on puisse avoir de bons résultats lors du bac.
Mmh.
Mais moi, j'ai un problème sérieux là.
Oui.
À chaque fois que je m'efforce de réviser, mais comme je retourne souvent le soir, les cours de bite à midi, retourner le soir, je me sens souvent fatigué.
Oui, parce que vous avez combien d'heures de cours dans la journée, Floribert?
Bon, du coup, nous avons 7 cours.
7 heures de cours, donc. Voilà. C'est des cours d'une heure.
7 heures de cours, voilà.
Ouais. Alors, c'est normal d'être fatigué après 7 heures de cours, Anne de Pomereux. Comment on fait pour se remotiver? On se planifie des activités courtes, parce que c'est toujours pareil. Si on veut continuer de réviser, d'encoder, de stocker les informations nécessaires à l'examen, il faut en mettre une petite couche tous les jours.
Oui, la bonne stratégie, c'est de faire peu, mais bien, et puis peut-être faire une vraie pause entre la sortie du lycée et le début de la séance de travail.
Un petit peu de sport, aller courir, jouer au ballon.
En fait, on peut pas être en concentration 10 heures, 15 heures par jour. Donc, il faut savoir alterner la détente et la concentration.
Une petite partie de foot à la sortie, Floribert, vous faites ça, vous, quand vous sortez de cours?
Du coup, quand je sors du cours, je rentre chez moi.
Ah.
Je me détends un peu. Et je m'efforce de réviser la matière de la journée.
Et vous vous détendez sur quoi, sans indiscrétion, Floribert?
Bon, je me relaxe en dormant,
Ah d'accord, vous dormez.
Ah, c'est une très bonne idée, c'est ce que j'allais proposer.
Bon, dormir.
Une sieste de 20 minutes, ça me paraît très bien.
Vous n'êtes pas sur TikTok par hasard?
Pardon ?
Vous n'êtes pas sur TikTok ?
Sur TikTok, non.
D'accord.
Non.
Ok.
Non.
Non, non, mais on ne sait jamais. Hein. C'est quand même pas mal de jeunes qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et ça, bah, ça ne délasse pas forcément autant qu'on pourrait l'espérer. Donc, un petit peu de sommeil. Et ensuite, on se remet au travail.
Si on est fatigué, oui. Si c'est ça qui vous fait du bien et que vous ne vous endormez pas pendant 4 heures, bien sûr. Hein. Mais une sieste, ça peut être pas mal. Ou des exercices de respiration, ça peut être bien aussi. Notamment la cohérence cardiaque qui a pour effet de baisser le stress et qui a comme intérêt que c'est qu'elle dure que 5 minutes.
Abdelalim Boudouka, une question de Claude qui est étudiant en philosophie en licence 3 à l'université Charenta Diop. Il nous dit en philosophie moderne, je maîtrise le cours, mais je mélange tout pendant l'examen, je perds mes moyens. Comment trouver la concentration pendant l'examen malgré le stress? Ce fameux stress dont vous nous avez dit en début d'émission qu'il est nécessaire et qu'il est utile parce que ça crée une tension qui aide à la mobilisation des connaissances.
Oui, alors parfois le stress, il est tellement important que apparaît une forme de blanc. Les étudiants peuvent le dire. C'est-à-dire qu'en fait, je lis la question et alors que j'ai révisé et que logiquement, je devrais pouvoir répondre, j'ai un espèce de blanc. Ce que je conseille tout le temps, c'est de dire aux étudiants, quand vous êtes face à votre question et que vous avez ce blanc et que vous n'avez pas d'idée, l'idée, c'est que vous avez un brouillon et puis vous allez noter de côté un certain nombre de mots-clés. Pourquoi ? Parce que, en fait, progressivement, votre stress va diminuer. Et lorsque ce stress diminuera, en fait, vous allez récupérer des informations. Donc, la première chose que je peux dire, c'est normal, en fait, lorsqu'on débute, de ne pas avoir les idées en place. Par contre, c'est laisser ces idées revenir d'elles-mêmes, sans essayer de les chercher, sans essayer de les contrôler. Parce que parfois, en essayant de les contrôler, on crée un phénomène inverse, c'est-à-dire j'essaie de faire venir l'information, il ne vient pas, ce qui augmente mon stress et parfois mon anxiété et ce qui maintient mon trou blanc, noir, hein, et j'ai l'impression en fait, que je ne vais jamais réussir. Alors, le deuxième élément, c'est de ne pas laisser les processus de pensée négatifs se mettre en place, du type « ça y est, c'est terminé, je ne vais pas réussir mon épreuve, j'arriverai pas à répondre à la question ». Au lieu de se concentrer sur ces idées négatives qu'on peut avoir en tête, l'idée, c'est de se dire simplement « c'est normal ». Que lorsque je débute cette épreuve, je n'ai pas les idées en place, mais mes idées vont revenir progressivement et je vais les laisser d'elles-mêmes venir. Un peu comme le sommeil. Le sommeil vient non pas parce qu'on lui ordonne de venir, mais parce qu'il vient de lui-même.
Anne de Pomereux, pour l'étape fatidique au moment de l'examen, c'est-à-dire la récupération des données qu'on a encodées et stockées dans son cerveau.
C'est vrai que d'arriver dans une forme un peu de détente, ça marche mieux. Alors maintenant, la détente, on ne l'a pas forcément. Mais la puissance, quand on a stocké dans des lieux des bribes de connaissances comme ça, la puissance du lieu est telle que ça revient. Donc c'est quand même assez puissant. On le voit, alors les championnats de mémoire, c'est des champions qui s'affrontent sur des épreuves complètement dingues. On se demande comment ils font en fait. Du style retenir 4500. Alors, ça n'a aucun intérêt, en fait. Des décimales de 1 et des 0, des suites de 1 et 0, ou des noms et visages, ou des décimales de pi, ou des listes de mots. Enfin, mais en fait, c'est la quantité et la vitesse avec laquelle ils arrivent à récupérer. Mais ça, c'est beaucoup de l'entraînement. Et c'est la puissance des lieux, d'avoir déposé toutes ces informations dans des lieux.
Toujours sur cette étape cruciale, la deuxième étape, le stockage, où on les a déposées avec ces images mentales de lieux.
Exactement.
Telle information, on l'a déposée derrière la télévision, par exemple, ou dans une armoire, etc.
Ouais. Avec des lieux différents pour chaque type d'information.
Les derniers conseils, on arrive vraiment au terme de cette émission, Abdelalim Boudouka, pour tous ceux qui oscillent entre l'anxiété, le stress, qui ont ces pensées négatives alors que ça a bien marché pendant l'année et qui ont extrêmement peur d'échouer.
Alors, il y a plusieurs stratégies ici. Je dirais que comme les stratégies de concentration sur le problème, c'est-à-dire les révisions, et puis ma collègue Anne en a beaucoup parlé très pertinemment, donc là on ne revient pas dessus, il y a en fait des stratégies où on va aussi essayer de gérer, réguler ses émotions en faisant des activités qui sont agréables, et puis en termes de soutien social. Le soutien social est un élément extrêmement important. Et puis, pas se simplement faire... en Afrique, donc ça veut dire...
Se faire remonter le moral relations. Par l'entourage, par la famille, par les amis. Merci à tous les deux. Merci Abdelali Moudouka de l'Université de Nantes. Merci à vous pour vos conseils, Anne de Pomereux. Vous avez publié « À la reconquête de l'attention hein. ». Ce n'est pas la concentration, c'est très important, l'attention, aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci à tous les deux. On se quitte avec Petit Homme, Kalinga, extrait de l'album « Earthquake ». Et bien sûr, je vous donne le programme de 8 milliards dans quelques minutes.
Propulsé dans ce monde, tu t'es dit que c'était le tien. Ton âme sensible et profonde, plus tu grandis, plus elle s'abstient. Façonnée de plus en plus tôt, pour se révéler de plus en plus tard. Avoir du cœur devient un fardeau, lorsqu'on marche pressé sur les trottoirs. Cours petit homme, cours petit homme. Continue ta course aux chiffres, tout en laissant ton esprit en friche. Compte petit homme, mais quand on aime, on ne compte pas. Mais le vivant dans des cages, construis ton monde sur un mirage. Contrôle ce qui vit et respire, tu as bien des désirs à assouvir. Compte petit homme, vas-y compte sur tes doigts. Mais quand de ta main j'aurai besoin, pourrais-je compter sur toi? Cesse d'augmenter, raconte-moi l'amour. Je veux le vivre, peu importe le coût de tes calculs, je me fous. En somme, c'est l'infini, le rendez-vous. Petit homme, arrête-toi, petit homme, arrête ta course folle. Tu ne doubleras personne.
Merci à l'équipe qui pratique, qui prépare chaque jour cette émission. 8 milliards de voisins, Juliette Brault, Delphine Cachin, Tom Malky, David Brocouet. Demain, 8 milliards de voisins, on sera à 100 jours des Jeux. La flamme olympique est allumée aujourd'hui en Grèce. Alors que représentent les Jeux pour vous sur le continent africain? Quels sont vos espoirs de médailles pour votre pays? Comment valoriser les sportifs de haut niveau en Afrique? Bien sûr, on attend vos appels au 33 7 64 45. 51-41 et puis bien sûr retrouvez notre sondage sur les révisions d'examen. Vous êtes nombreux à avoir répondu aujourd'hui sur notre page Instagram, sur notre compte Insta et retrouvez-nous bien sûr aussi sur WhatsApp Channel. Merci à vous les voisins et les voisines. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, en direct bien sûr sur RFI. Et dans quelques instants ce sera RFI midi.